Courte Pointe avec Danny Benz.
Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la vénérable Élisabeth Bruyère. Élisabeth naît le 19 mars 1818 dans le village de l'Assomption, à quelques kilomètres de Montréal. Son père, Charles, a déjà 4 enfants lorsqu'il épouse en secondes noces Sophie Mercier de Sainte-Anne-de-Beaupré. Celle-ci lui donne 3 autres enfants, dont Élisabeth, l'aînée de cette deuxième famille. À peine âgée de 6 ans, Élisabeth éprouve une peine profonde à perdre son père. Elle connaîtra la pauvreté et les sacrifices qui s'imposeront. Elle doit abandonner la maison paternelle et résidera dorénavant à Montréal, où sa mère, courageuse, s'adonne au service domestique pour faire vivre sa famille. Élisabeth fréquente l'école des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, près de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Elle y fait sa première communion le 3 mai 1827, à l'âge de 12 ans. C'est à cet âge aussi qu'elle a perdu sa mère, et dorénavant, elle doit vivre à Saint-Esprit, où Émilie, la cousine de sa mère, devient sa mère de remplacement, son enseignante et sa mentor. Émilie préparera sa petite Élisabeth à sa carrière d'enseignante. La jeune fille sentit naître en elle la vocation d'être au service des personnes défavorisées. C'est en 1839, âgée de 21 ans, qu'Élisabeth entre dans la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal, fondée par Mère Marguerite Diouville, et y fait profession le 31 mai 1841, à l'âge de 23 ans. À cette époque, on sollicite la supérieure générale, Mère McMullen, pour qu'elle établisse une communauté à Bytown, aujourd'hui Ottawa. Le père Telmont, Oblat de Marie Immaculée, ne peut croire à une réponse négative. Si Mère McMullen refuse, il tient à ce qu'elle sache que ce sont les Sœurs Grises qui sont voulues et demandées les premières. Pour réaliser cette mission, en février 1845, on désigne Sœur Élisabeth Bruyère, qui a fait profession seulement 4 ans auparavant. Surprise de cette nomination si inattendue, elle confie: si j'accepte, c'est pour rendre service à ma communauté, mais je ne me sens pas de vocation. Si mes supérieurs ne trouvent pas que j'ai de bonnes raisons de refuser, je laisse la décision à leur prudence. Ses supérieurs admirèrent ses qualités remarquables et la nommèrent donc supérieure fondatrice de Bytown. Le 19 février 1845, elle quitta Montréal avec 3 autres sœurs professes, une postulante et une aspirante. C'est à ce moment que la mission d'amour, de service et de compassion prit naissance, une mission encore vivante aujourd'hui, à Bruyère. À cette époque, des immigrants anglais, irlandais et écossais se rendirent dans la région afin d'obtenir du travail pendant la construction du canal Rideau. Avec les Canadiens français, ils formèrent la population de Bytown. Imbue du charisme de Mère Diouville, Mère Bruyère et ses consœurs entendent bien continuer à Bytown l'œuvre des pauvres et le soin des plus défavorisés. Seulement 3 mois après leur arrivée, les sœurs avaient fondé une école, un hôpital général, un foyer pour personnes âgées, un orphelinat et une résidence pour enfants abandonnés. À l'été 1847, plus de 3000 nouveaux immigrants irlandais sont arrivés à Bytown, ayant fui la grande famine en Irlande. Ils étaient examinés sur le quai Bytown et près des écluses du canal Rideau. Les plus malades étaient emmenés à Sœur Bruyère et à ses sœurs de la Charité. Les autres immigrants étaient emmenés dans des baraques de fortune. Les immigrants irlandais de la grande famine ont en quelque sorte suivi les traces de ceux qui les précédèrent, tombant malades eux aussi, mais d'une autre maladie infectieuse, le typhus, ou maladie de la fièvre des bateaux. Dès le début du mois d'août 1847, l'épidémie de typhus a porté les autorités à fermer l'accès au canal Rideau. La compassion, cette qualité du cœur, se transforma donc en action. Personne ne voulut du lazaret dans son quartier. La terre achetée par Mère Bruyère pour la construction de la maison mère et de l'hôpital, plus vaste, devint l'emplacement idéal pour la construction du lazaret. Les patients y furent accueillis à partir du 11 juin 1847. Mère Bruyère se réjouit de ce travail de miséricorde, même si elle craignit la contagion. Environ 578 patients furent traités par les sœurs de juin 47 au mois de mai 48, au moment où l'hôpital des immigrants ferma ses portes. Parmi les 22 sœurs, 17 contractèrent le typhus en donnant des soins, mais chacune y survécut. La population de Bytown manifesta de la sympathie pour les immigrants et elles furent remplies d'admiration pour les sœurs qui en plus avaient accueilli les 60 orphelins qui devaient être pris en charge. La compassion de Mère Bruyère à l'égard de la souffrance et de l'impuissance des immigrants irlandais avait inspiré les sœurs à ouvrir leur cœur et à se mettre à l'œuvre. Le don de soi, la bienveillance et la compassion pour les malades et les démunis était toujours l'idéal fixé par Mère Bruyère à l'arrivée des sœurs. L'enseignement, cependant, était l'œuvre la plus urgente. Mère Bruyère s'efforce de rendre compétentes les sœurs enseignantes, même au-delà des besoins immédiats. En 1850, la maison mère fut construite afin d'accueillir sous un seul toit des orphelins, des personnes âgées et des malades. Mère Bruyère répondit également aux besoins des personnes pauvres d'autres régions du Canada et aux États-Unis, pour offrir et ouvrir des écoles, des orphelinats, des hôpitaux et foyers pour personnes âgées. La force et l'audace de l'engagement apostolique, voilà les qualités de Mère Bruyère, des qualités qui furent fortement ancrées dans sa foi. Pendant 31 ans, elle et ses sœurs offrirent un service empreint d'amour à toutes les personnes qui cognèrent à leur porte. De l'aide n'a jamais été refusée à quiconque. Mère Bruyère est décédée le 5 avril 1876 à l'âge de 58 ans. Sa mission d'amour, de service, de compassion a été transmise aux sœurs de la congrégation. Et aujourd'hui, la mission de Mère Bruyère est perpétuée par les personnes œuvrant à Bruyère. On lui doit la création du premier hôpital d'Ottawa et de la première école bilingue d'Ontario. Mère Élisabeth Bruyère a été déclarée vénérable par le pape François le samedi 14 avril 2018. Et voici des paroles d'une chanson intitulée « La prière d'Élisabeth » tirée des écrits de la vénérable Élisabeth Bruyère. La nuit met en veilleuse la misère, les cadavres, la démence, mais l'aube se lève encore une fois pour dévoiler toute cette souffrance. Je veux me vêtir de courage, tenter d'offrir du réconfort, m'accrocher au désir profond de pouvoir changer leur sort, toi qui veilles sur moi, qui m'inspire et me protège, pourquoi m'avoir donné des mains de femme quand il me faut des mains de fée? Pour que seul mon toucher puisse éteindre la mort ou porter dans mes paumes tout leur chagrin, écraser cette fièvre qui les dévore. Je veux me vêtir de courage, aller au-delà du devoir et accueillir sans condition tous les disciples du désespoir. Toi qui veilles sur moi, toi qui m'inspire et me protège, pourquoi m'avoir donné des mains de femme quand il me faut des mains de fée? Toi qui veilles sur moi, qui m'inspire et me protège, entends ma prière, glisse ta main dans la mienne, donne-moi la force de continuer. Amen. Seigneur, pour aujourd'hui, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce que m'apportera cette journée qui commence. Accorde-moi de me livrer entièrement à ta sainte volonté. Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d'un cœur tranquille, fermement persuadé qu'elles sont l'expression de ta sainte volonté. Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments. Que je n'oublie jamais dans les circonstances imprévues que tout m'est envoyé de toi. Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse avec chacun des membres de ma famille, sans troubler ni peiner personne. Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, croire, espérer, supporter, pardonner et aimer. Amen. La chanson choisie de la semaine, c'est la chanson finale de la fresque musicale « Jésus, de Nazareth à Jérusalem ». Elle est intitulée « Un nouveau commencement » et c'est une chanson de Didier Golmanas et Pascal Obispo.
C'est comme si quelque chose avait changé. Comme si quelqu'un avait mis toute la lumière du monde dans le ciel de notre vie. C'est comme si nous étions tout près de lui, comme si nous avions depuis trouvé cette force en nous, le pardon infini. Ce que nous avons vécu, ce n'était que le début. Ce que nous avons reçu, ce n'était que le début. Rien ne sera jamais comme avant. C'est ici, c'est maintenant, au bout de nos cœurs impatients, un nouveau commencement. Rien ne sera jamais comme avant. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est à nous de porter le chant.
Une fois dans la vie, quelqu'un prie pour nous. Cette seule fois suffit pour changer tout. Une fois dans la vie, quelqu'un vit pour nous. Et l'espoir grandit là devant nous. Le partage est dans nos mains, nous ouvrons tous les chemins. De la nuit, on n'aura plus de pleurs, de chaînes. Il n'y en aura plus. Rien ne sera jamais comme avant. C'est ici, c'est maintenant, au bout de nos cœurs impatients, un nouveau commencement. Rien ne sera jamais comme avant. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est à nous de porter le chant. Un nouveau commencement, un nouveau commencement. Rien ne sera jamais comme avant.
Ainsi prend fin cette émission. Merci pour votre écoute et merci à Berthold Bernier pour le choix musical et la réalisation technique. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.
C'était Courte Pointe avec Danny Benz.